Radio Barque, deuxième partie de cette 21e pour la saison. Tu avais prévu, Michel, et puisque tu l'avais dit, on va tenir promesse, de nous parler d'urbanisme au sein de l'agglomération et, enfin, je dirais presque commune versus agglo.
Oui, parce que quand même, une des fonctions de notre émission, de ces chroniques, Jean-Claude, il apportait quand même des éléments de réflexion, même sur un ton un peu ironique ou un peu piquant, à nos auditeurs.
Et d'informations.
Et d'informations qui ne sont pas forcément...
Il faut s'y retrouver.
Qui ne sont pas forcément données par les quotidiens locaux qui n'ont pas tout à fait la vocation à faire ce genre d'exercice. Donc l'agglo, plutôt l'agglo, par décision.
Le Grand Narbonne, en l'occurrence.
Par une décision de 20% des communes de l'agglo, je résume pour aller très très vite, quoi, hein, il y a beaucoup d'autres aspects, mais bon, 20% des communes, dont Narbonne, Gruissant, en fait, Fleury, etc., Montredon, etc., 20%, ont décidé, c'est 20% seuls, de ne pas transférer la compétence plan local d'urbanisme à l'agglo. Ce que la loi qui a été votée l'année dernière, la loi NOTRe, permet aujourd'hui. Et elle le permet pourquoi ? Pour mettre en cohérence un ensemble de compétences qui ont déjà été transférées à l'agglo, et qui correspondent à des nécessités de gestion d'un territoire qui est de plus en plus interconnecté en termes urbains, en termes de transport, etc. Je rappelle que bien avant cette possibilité offerte par la loi, de transférer les PLU au Grand Narbonne en l'espèce, avait été mis en place un SCOT, un schéma de cohérence territoriale.
Voilà, de cohérence. Insistons sur le mot.
Mais qui est tellement flou dans ses exposés, en termes d'aménagement du territoire. Il ne définit que des grands ensembles, avec des zones géographiques dessinées de manière très générale, qui n'ont pas un caractère contraignant, particulièrement important. Je dirais même qu'elles n'ont, ces schémas de cohérence, sont plus des outils pour la réflexion que des outils capables, effectivement, de peser sur la définition des PLU qui étaient jusqu'à aujourd'hui de la compétence exclusive des communes. Donc.
C'était une ébauche, quoi.
C'était une ébauche. Mais un mec qui permettait d'orienter la réflexion. Donc là, les communes ont décidé de ne pas transférer leur PLU et de le garder.
Remarquons d'ailleurs au passage que ça n'est pas un phénomène gauche-droite, la couleur politique
n'importe
n'y
peu.
Est pour rien.
La preuve, Gruissant et Montredon sont gérés par Didier Cordonneau, vice-président de l'agglo, et Éric Meulet qui est aussi vice-président de l'agglo, alors que M. Sillet et M. Mouly, qui sont l'un de Fleury et l'autre de Narbonne, appartiennent au groupe de l'opposition.
Ils se retrouvent sur ce problème.
Alors évidemment, on le comprend, d'une certaine manière. Là, comment dirais-je, avoir le pouvoir sur l'affectation du foncier de son commune, c'est pour les maires le premier des pouvoirs, le plus important. C'est celui qui permet de dire, tiens, là, je m'en vais construire des logements, donc je vais faire rentrer la taxe d'habitation, passage. Là, je vais l'affecter pour y créer un terrain de sport. Là, je vais l'affecter pour... Ah, ça ne peut plus le faire, c'est l'agglo, les zones d'activité économique, mais bon, là, un espace vert, que sais-je, Donc ce pouvoir-là, ils y tiennent pour des raisons qui sont évidentes.
Ben oui, et ça t'étonne. Ça t'étonne, Michel, exposé. Qu'ils y tiennent.
Oui, c'est maintenant.
Tu viens de démontrer que c'est un pouvoir très important.
Non, mais ça ne m'étonne pas. Mais je constate qu'aujourd'hui, compte tenu de l'interconnexion et de la dépendance en termes de développement urbain et d'aménagement de leur propre zone urbaine de toutes les communes de l'agglo. On ne peut plus penser, chacun dans son coin, le gérer chacun dans son coin, son propre programme local d'urbanisme. Ça n'a pas de sens. Les relations entre Gruissant et Narbonne, par exemple, sont des relations de proximité tellement évidentes, tellement interconnectées, que l'on ne peut pas imaginer qu'à terme, ils continuent de gérer leur plus de manière séparément. Je prends un seul exemple, concernant ces deux villes, Jean-Claude. Monsieur Codorniou, à l'entrée de Gruissant, est en train de mettre en place un programme immobilier très important, Lassagne, à l'entrée de Gruissant, qui nécessairement va générer des flux de circulation sur l'axe Narbonne-Gruissant, considérable, en tout cas beaucoup plus important qu'il n'y en avait auparavant, avec toutes les conséquences à l'entrée de Narbonne.
Bien sûr.
Et inversement, Monsieur Mouly qui crée sa salle multimodale en fait à l'entrée de Narbonne aussi sur la, dans la même zone. Hein. Si tant est qu'elle réussisse cette salle, bon, à voir le jour, qu'elle voit le jour, pardon, et qu'elle est un, comment dirais-je, un afflux en fait de consommateurs très important, va elle aussi générer en fait des bon. Donc comment penser séparément, différemment, ces deux politiques urbaines qui ont tant de, qui ont des conséquences évidentes hein, en termes sur l'une et sur l'autre. Non.
Voilà, donc
il faut les gérer de d'une manière unique en fait, et ça ne peut être fait que par effectivement la communauté qui a compétence en la matière, en matière de transport, en matière de y compris logement social. Au passage, hein. Donc voilà un exemple, mais je pourrais en donner d'autres, hein, qui montre bien qu'il y a effectivement une interconnexion entre les deux et qu'on ne peut plus aujourd'hui hein, prétendre gérer de manière autonome et sans aucun effet négatif sur son voisin, son plus, dans son petit coin.
Voilà, donc ces transferts de compétences, on le voit, sont parfaitement difficiles. Un petit mot, monsieur Saint-Luc,
là-dessus. Oui, je partage parfaitement la vision de Michel Santeau. Je pense qu'il y a un problème de mentalité. Il est temps qu'elles évoluent très rapidement, ces mentalités, parce que donner l'urbanisme effectivement aux agglomérations, c'est faire un développement harmonieux et cohérent, maîtrisé du développement urbanistique, voilà, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Et puis surtout, les maires ne perdent pas le véritable pouvoir, parce que finalement, ils se dégagent aussi de certaines pressions. Et ça permet aussi, il est bien évident que les maires sont consultés, puisque ça se passe sur leur commune, mais avec une vision d'ensemble. Et du coup, on peut commettre moins d'erreurs. Et c'est profitable pour tout le monde, me semble-t-il. Donc c'est vraiment une question de mentalité aussi.
Oui, il faudra que les mentalités évoluent, comme l'on dit très très souvent. Pour conclure cette deuxième partie, Michel, un mot sur Sportfolio, le festival donc sport qui a connu un certain nombre de vicissitudes d'ailleurs.
Et feu Sportfolio.
Et feu, alors feu définitivement, on ne sait pas, mais en tout cas, en tout cas, il n'aura pas lieu cette année. Alors qui est responsable? On va pas chercher le bouc émissaire parce que c'est compliqué.
C'est compliqué, mais à l'évidence, quand on lit, moi je me suis contenté de lire l'article de l'Indépendant consacré à ce dossier, sans aller au-delà, quoi, aller interroger les différents acteurs pour savoir ce qu'ils ont dit vraiment ou pas. Mais la lecture quand même de ce papier, on ne peut pas ne pas relever qu'entre les deux cofondateurs de cet événement, hein, qui, je vais y revenir, il y avait des dissensions particulièrement importantes. Bon, on ne peut pas dire de très fortes inimitiés.
Déjà,
chacun défendant son projet concurremment à l'autre, alors qu'au départ, ils étaient associés lors de la première édition. Sans compter les problèmes organisationnels et juridiques et financiers qui ont été expliqués dans ce papier.
Donc, première cause possible.
En même temps, quand même, j'insiste sur ce point-là, Jean-Claude. Quand on a sur le territoire d'une ville comme Narbonne à gérer ce genre de dossier, ça a été une création en 2015, je crois, 2014.
Monsieur Saint-Luc, vous étiez à l'origine.
La première édition en 2014. Non, simplement, 2014. Au départ, c'était effectivement un projet qui avait sa place en fait dans le paysage régional voire même interrégional.
Oui, qui était en train d'acquérir,
qui entre Perpignan en fait. Consacré à la photographie de reportage et puis Arles à la photographie d'art, faire de Narbonne la ville référente en matière d'art photographique dans le domaine sportif, le sport en général, ses acteurs, il y avait effectivement objectivement une place à occuper qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus. Et la première édition, je m'en souviens, je l'avais fait d'ailleurs en papier à ce sujet, était une édition de très très bonne qualité et préfigurait effectivement un développement intéressant. Donc, ce que je veux dire par là, Jean-Claude, c'est que quand on a ce genre de produit correspondant à une vraie opportunité en termes d'offres culturelles sur une région comme la nôtre. Quand on est aux affaires, on ne peut pas se désintéresser de ce projet au point de ne pas suivre attentivement les acteurs, leurs relations, leurs problèmes financiers, etc. Bon, voilà. On a un devoir d'anticipation de ces problèmes.
Et tu sous-entends que ça n'a pas été fait.
Et je sous-entends fortement que ça n'a pas été fait correctement. Et on ne me fera pas croire que ce ne serait que pour des raisons tenant à l'absence de 50 000 euros apportés par Nikon que cette affaire, si je puis me permettre l'expression, à foirer. Non, c'est pas l'explication principale. Et tiens, à la fois, à ces problèmes dont j'ai parlé, les problèmes concurrentiels entre les deux cofondateurs, ça tient aussi à une absence d'anticipation, des élus. Ça tient probablement aussi au fait que, parallèlement, ou presque la veille ou le lendemain, je ne sais plus, il y a cet innommable, je ne supporte pas, exposition de tôles motorisées, en fait, qui nous est présentée sur 2 jours dans le cœur historique. Hein. Enfin bref, tout un ensemble de faits, et événements qui font que tout ça me semble fort suspect et je considère, à tort peut-être, hein, que tout n'a pas été vraiment fait de ce qui doit être fait pour maintenir ce projet qui était un excellent projet.
Bon, ben c'est là-dessus qu'on conclura pour ce portfolio en espérant peut-être le revoir se ressurgir prochainement.
Ou ailleurs, ce qui serait alors la pire des choses qui puissent
nous
arriver.
Dans une troisième partie, puisque notre invité est Nicolas Saint-Cluc, on lui demandera d'évoquer ce sujet qu'il connaît bien. Et on marque une deuxième pause.